Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve tout de suite après cette émission. Comme d'habitude, c'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Beignat Gachin de Nos Couleurs LGBT plus Land qui veut nous parler du festival Focal. Comment ça va ?
Très bien, très
voilà,
bien.
On est content de vous recevoir. On va passer une petite heure ensemble pour découvrir votre association et ce festival qui en est à sa
cinquième édition.
Voilà. On va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Alors Beignat, la tradition ici, c'est on demande toujours aux invités une petite bio, une petite trajectoire personnelle pour avoir une petite idée de qui ils sont et qu'est-ce qui les a menés aujourd'hui à ce micro, si vous voulez bien vous prêter à cet exercice.
Alors il faut remonter dans le temps.
Aïe.
Jusqu'au Pays Basque où je suis né. Mm-hmm. Je suis né à Saint-Jean-de-Luz. Et ensuite, j'ai quitté Saint-Jean-de-Luz et je suis parti loin parce que je suis devenu prof d'histoire géo. Mm-hmm. Et donc je suis parti loin parce que j'ai fait une partie de ma carrière dans des collèges et lycées français à l'étranger. Mmh. Parce qu'il existe tout un réseau d'établissements que l'État français maintient dans pas mal de pays. Et donc j'ai fait pas mal de postes, notamment au Maghreb, avant de revenir sur les Landes et de retrouver des établissements landais. Mmh. Je pense au collège de Cap-Breton, Jean Rostand, et puis le collège de Labelle, où j'ai terminé ma carrière avec une chouette équipe de collègues, de profs d'histoire géo. Mmh. Voilà. Et au niveau associatif, j'ai toujours été engagé sur plein d'associations. Lorsque j'étais à l'étranger, j'étais dans des associations des Français à l'étranger, et on développait la culture, on développait la solidarité. Mmh. Et là, depuis 5 ans, je suis engagé dans l'association Nos Couleurs, qui est une association qui est maintenant un centre LGBT des Landes et dont le siège est à Mont-de-Marsan.
Oui, voilà. Des fois, je vois des publications de temps en temps sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il faut se battre un peu partout. Hein ?
Oui, il faut se battre un petit peu partout. Mais on se bat toujours avec les mêmes valeurs, qui sont les valeurs humanistes, qui sont les valeurs du vivre ensemble.
Oui.
Et voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on essaie de développer à travers nos actions. Alors, nos actions, c'est la prévention. La prévention pour accompagner les jeunes, les moins jeunes, parce qu'ils sont différents des autres, mais finalement qu'ils ont beaucoup de points communs avec les autres. C'est aussi l'accompagnement des personnes, des familles qui s'interrogent par rapport à leur enfant. Et puis c'est aussi la sensibilisation, et c'est dans ce cadre-là qu'on organise à la fois des événements culturels, des expos dans les médiathèques, et puis ce festival Focal, qui est un festival de films à thématique LGBT, qui se déroule sur plein de villages, villes des Landes, et aussi jusqu'au Pays Basque et de Béarn.
Alors voilà, en tant qu'ancien de l'éducation nationale, évidemment, les interventions en milieu scolaire, bon, ça doit être assez sympa, ça doit se passer de l'autre côté.
Oui, on retourne avec plaisir dans les établissements scolaires parce qu'on intervient à la demande des chefs d'établissement, à la demande des infirmières, à la demande des enseignants, avec l'accord du rectorat bien sûr, pour parler des discriminations en général. Alors on parle racisme, on parle antisémitisme, on parle d'homophobie, de transphobie. Et on passe 2 heures. Alors pour l'ancien prof que je suis, c'est un plaisir de retourner dans les classes, parce qu'on n'est pas, là dans le statut de prof.
Oui.
On est là pour animer. Ce sont des séquences où on joue, où on discute. Nous, on vient rien imposer. On laisse simplement la parole se développer. On rappelle la loi. Et puis, on apprend aux jeunes à vivre ensemble, parce qu'ils sont tous différents. Et donc, c'est bien qu'ils prennent conscience que ces différences sont des richesses.
C'est vrai qu'alors, en plus, en tant que prof d'histoire ou histoire géo, vous avez une responsabilité de plus. Enfin, vous aviez, en tout cas, le corps enseignant. Il y a aussi l'éducation morale et civique.
Oui, l'enseignement moral et civique.
Voilà, oui. Et donc, ce discours-là sur les valeurs, etc., il prend une place particulière.
Oui, puis on utilise des outils d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on utilise des outils comme le débat mouvant, qui permet de rendre concret, par exemple, faire réfléchir sur est-ce que le fait qu'une famille homoparentale puisse adopter, est-ce que ça pose un problème, ça pose pas un problème. Et puis chacun apporte sa réponse. Et nous, on laisse faire, on laisse dire. Et ils se répondent les uns aux autres. Et c'est ça qui est intéressant. Et on a des scolaires qui évoluent, qui se posent des questions, qui s'écoutent, qui apprennent à écouter un avis qui n'est pas le leur, qui est différent.
Ça. C'est ce qu'on appelle débattre.
Ouais, débattre en respectant l'autre et puis en n'imposant rien. Et puis finalement, débattre aussi en se disant, au cours du débat, je peux changer d'avis parce que la personne en face a développé des arguments qui m'ont convaincu.
Ouh là là, alors c'est ce qui ressemble à la vraie définition d'un débat qu'on a du mal à constater en général entre adultes. Hein.
Alors oui, mais ils ont la possibilité, par rapport à une question posée, de se positionner en « je suis d'accord »,« je ne suis pas d'accord » ou « je ne sais pas ». Et après, au fur et à mesure des arguments, parce qu'ils cherchent des arguments, le but c'est de convaincre l'autre en face. Ils peuvent changer et leur dire que dans la vie c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on sait des choses et puis après, parfois, on écoute, on apprend. Et puis voilà, c'est cette façon de vivre la démocratie quelque part. Voilà.
On discutait avec notre invitée d'hier, Pauline, de la maison éco-citoyenne des Landes, de Mont-de-Marsan. Ouais. Voilà l'importance, comment dire, de transmettre les messages au plus tôt chez les gens. Ouais. Donc les jeunes, c'est très important, puisque du coup, après, ça fera des adultes qui auront déjà acquis certaines valeurs, certains renseignements. Et c'est plus facile de passer par eux que par les, entre guillemets, anciens.
Oui, parce que apprendre, parce qu'on est dans un monde de personnes énervées, de personnes dont le ton monte très rapidement. On est dans un monde un peu crispé. Les médias, les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui jouent sur la réactivité, les trop grandes réactivités. Oui. Mais justement, dire « bon, mon voisin ne pense pas la même chose », c'est normal. On n'est pas obligé de penser tous la même chose. Et j'écoute, il m'écoute. Et puis peut-être qu'on peut trouver un moyen terme où on va arriver à être d'accord. Je crois que c'est ça qu'on essaie de développer. Parce qu'on essaie de développer en fait le fait que les jeunes s'écoutent, se parlent, évoluent. Qu'ils aient l'esprit ouvert et l'esprit critique en fait. Et ça c'est le travail qu'on faisait aussi en tant que prof d'histoire géo avec notamment l'éducation morale et civique.
Alors vous intervenez auprès des collèges mais des lycées aussi?
Oui, alors on intervient surtout auprès des collèges 4e, 3e et on intervient aussi auprès des lycées essentiellement seconde, première.
Oui. Ouais. D'accord, les 4e, 3e, c'est parce qu'il y a quelque chose dans le programme qui vous permet de vous insérer
alors,
plus facilement.
Maintenant, il y a un nouveau programme qui s'appelle EVARS, éducation à la vie relationnelle, affective et à la sexualité, qui normalement ce sont les établissements avec les collègues qui devraient le mettre en place, mais ça vient de se mettre en place. Et donc on sollicite nos associations pour accompagner. Et comme on a un savoir-faire lié au fait qu'on aborde ces questions-là depuis très longtemps, on intervient dans ce cadre-là. Et il y a un programme très précis que l'on suit, que l'on respecte, qui permet aux jeunes de se poser des questions sur les réseaux sociaux, sur le consentement, qui sont des thèmes importants, qui font partie de leur construction.
Alors ça, du coup, ce programme, il est porté par qui en termes de personnel dans l'éducation nationale?
Alors,
c'est encore le prof d'histoire géo qui prend ça?
Non, pas uniquement. Non. Ça vient d'être mis en place cette année, en fait.
D'accord.
Donc, je pense qu'ils forment les formateurs, qu'il y a souvent un prof qui est un prof référent dans l'établissement. Et après, il faut, avec les collègues volontaires au départ, je pense, mettre en place tout ça. C'est un sujet qui est important, sensible, parce que il faut vraiment intervenir là-dessus, parce que sinon les jeunes ont accès à plein d'infos et pas forcément des infos très positives à travers les réseaux sociaux, à travers les smartphones, etc. Et si on laisse se faire, ils ont une vision de la relation à l'autre, de la sexualité qui va être liée à l'industrie pornographique. Nous, on leur explique que ces films, ce qu'ils voient, c'est pas la réalité. Donc apprendre à réfléchir, apprendre à respecter l'autre, apprendre à prendre le temps de séduire quelqu'un, c'est des choses qui sont la vie. Et puis le consentement, c'est quelque chose qui est important, et vrai, comprendre ce que c'est. Et puis on rappelle la loi chaque fois. C'est-à-dire que, mais la loi, c'est comme une espèce de garde-fou. C'est ce que l'on veut, c'est qu'ils comprennent la société d'aujourd'hui amène à réinterroger la relation à l'autre, mais dans le respect, dans l'amour.
C'est vrai, oui. Voilà. Alors, dans le cadre de mon travail pour la radio, je suis intervenu une fois dans la classe de Mme Rubington, qui est professeure d'histoire géo au collège de Saint-Jour-de-Marenne. Et justement, le sujet, c'était le racisme. Parce que, bon, quoi que ce soit, point phobie, voilà, c'est le même combat, en fait. Hein, c'est toujours une forme de racisme. Hein. Et voilà, il y avait cette notion de loi, et on avait fait un parallèle entre le code de la route. Hein, c'est-à-dire, si tout le monde le respecte, une intersection, il n'y a pas d'accident. Loi, elle est là pour éviter les accidents, en fait, pas de voiture, mais de personnes, de sensibilité et de vie. C'est important, la loi.
On se rend compte qu'en fait, il faut du temps pour que une idée imprègne la société, qu'elle soit ensuite vraiment appliquée. Les premières mesures par rapport au racisme datent des années 70, 72, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Mais même de nos jours, on voit très bien qu'il y a encore du racisme. Mm. On voit très bien que dès qu'il y a un match de foot ou qu'il y a un élu politique, comme on l'a vu récemment, on sent bien que tout le monde n'accepte pas. Et c'est donc, ça veut dire qu'il faut retravailler sur ce qui fait commun, ce qui fait qu'on vit ensemble avec nos différences.
Oui.
Voilà. C'est sans cesse, là. Il ne faut pas lâcher.
Oui, c'est ça. Alors vous-même, vu votre longue carrière, votre ancienneté, vous avez un petit recul sur l'évolution de la société, que ce soit la société civile ou vous-même dans le cadre de votre travail avec les élèves. Qu'est-ce qui s'est passé au cours du temps ?
Qu'est-ce qui s'est passé au cours du temps ?
Oui.
C'est que rien n'est linéaire. Il y a des choses qui avancent, des choses qui reculent. Mmh. Oui, les jeunes d'aujourd'hui sont quand même plus ouverts, tout simplement parce que la société est plus ouverte, parce qu'il y a des lois qui ont changé, parce qu'il y a, ne serait-ce que le cinéma, les séries, etc., qui montrent beaucoup plus de choses. Mmh. Donc on a des jeunes plus ouverts qui s'interrogent, mais qui peuvent aussi être influencés par des idées plus rétrograde. C'est-à-dire que on a des jeunes quand on intervient qui sont au courant de plein de choses. Parfois, moi, j'ai besoin d'avoir le smartphone à côté parce qu'il me pose des questions sur quelque chose que je maîtrise pas forcément. J'essaie d'anticiper, bien sûr, mais parfois aussi, on a des jeunes qui ne comprennent pas le monde dans lequel on vit. Et qui nous disent, c'est compliqué maintenant de draguer une fille. Mmh. Avant, c'était plus simple. Donc, on revient sur les notions de consentement, etc. Parce que dans les réseaux sociaux, sur TikTok, etc., vous avez des courants qui sont rétrogrades, conservateurs, qu'on appelle masculinistes, et qui considèrent que les droits des femmes sont des dangers pour les hommes.
Oui.
Et donc, on se trouve confronté à ces publics-là, c'est-à-dire certains qui sont très ouverts, d'autres qui s'interrogent, qui sont influencés. Et on est là justement pour leur apprendre avoir l'esprit critique, à analyser, à se poser, à ne pas surréagir, à comparer. Voilà, c'est ça un petit peu le travail qu'on fait.
Très bien. On va faire une première petite pause. On va écouter un musicien qui est cher à notre cœur, Souvenir FM, et on se retrouve ensuite. Nous voilà de retour avec Beignet. Bon, on a écouté Emric, Amour interdit. Bon, on avait fait une chouette émission la dernière fois qu'il est venu. On le reçoit régulièrement où il parlait. On a parlé de son homosexualité, de son compagnon qui est drag queen, de comment il vivait, etc. Et voilà, c'est quelqu'un de très chouette, moi que j'aime beaucoup.
Et bien, on retrouvera son compagnon au Fête de la Madeleine,
et voilà.
Qui sera présent à la Peña.
Eh bien, voilà. 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 Non, voilà, Emric, qu'on salue, s'il écoute cette émission, on l'embrasse. Voilà, oui, donc on parlait un petit peu hors antenne avec notre invité aussi, effectivement, la pédagogie pour les jeunes. C'est vrai que souvent, on utilise des biais, ludiques. Hein,
pour intervenir, oui.
Voilà, c'est le cheval de Troie, un peu le jeu pour apprendre aux jeunes.
Mais je crois que c'est un cheval de Troie pour tout prof, parce que c'est pas que le jeu tout le temps, c'est que les mettre en situation de recherche. Par exemple, nos interventions, c'est 2 heures, mais c'est, 6 activités différentes. Parce qu'au bout d'un moment, la tension baisse et il faut repartir sur autre chose. Qu'ils ne restent pas assis sur leur chaise.
Ouais.
Donc on les met en cercle d'abord. Il n'y a pas de table et ils comprennent que ce n'est pas un cours, mais c'est un moment où il va se passer des choses. Mmh. On va discuter.
Ils sont acteurs de la chose.
Oui, il faut qu'ils soient acteurs. Oui,
c'est vrai,
mais même dans les cours, il faut qu'ils soient acteurs souvent.
Oui.
Parce que si... on n'est pas forcément intéressé par l'histoire ou par autre chose. Il faut créer l'intérêt.
Oui.
Et puis, finalement, ce qu'on transmet, c'est plutôt une posture, une réflexion. Comment on se situe par rapport à un sujet, qu'on s'interroge, qu'on compare, qu'on critique. C'est ça. Ils retiennent ça, finalement. Je crois que c'est ça qui est important.
Oui, bah, c'est vrai, ouais, mais enseignants, j'en ai déjà reçu plusieurs ici, il y a pas mal d'anciens enseignants dans les associations, hein, il y en a beaucoup, hein, enseignants à la retraite, et c'est vrai que c'est un métier de comédien, hein, un petit peu, il y a un petit peu de ça, il y a du représentation devant un public, mais il faut tenir sa salle aussi, c'est...
Oui, d'accord, il faut faire les yeux.
D'ailleurs, c'est un intermittent du spectacle, je fais souvent le parallèle entre intermittent du spectacle et enseignant, parce qu'on a tendance à compter que le temps de présence comme le temps du travail, mais la préparation, c'est un gros travail, n'est-ce pas?
Oui, la préparation, mais c'est ce qui m'intéressait le plus, la préparation, parce que souvent, et puis la mise en route. Après, le moins intéressant, c'était les copies, comme tous les profs.
Ça, les copies, c'est toujours la corvée. Oui, alors vous êtes basé à Mont-de-Marsan, mais vous rayonnez, donc votre une ambition plus départementale.
Oui, alors d'abord, on est un centre LGBT, c'est-à-dire qu'on est un centre qui est reconnu par l'État, donc qui bénéficie de moyens de fonctionnement, donc on a une salariée qui s'occupe de toute la partie administrative qui est sur Mont-de-Marsan. C'est aux 3 rues Maréchal Bosquet, et on tient des permanences. Et on intervient sur tout le département. Alors, d'abord par des permanences. Une fois par mois, c'est une permanence sur Tyros, donc au centre Grand Touraine. C'est le premier mercredi chaque mois, de 14h30 à 16h. Ensuite, on intervient aussi sur le nord du département, à La Brite. Ça, c'est le troisième jeudi de chaque mois. Je crois que c'est de 15h à 17h. Et on fait beaucoup plus de permanence, évidemment, sur Mont-de-Marsan. Et là, on accueille les personnes, les familles, on accueille des enseignants, enfin, toutes les personnes qui ont envie d'avoir un éclairage. Et notre travail, c'est d'écouter et d'orienter ensuite vers le service public, vers les structures qui peuvent accompagner les personnes.
Oui, je vois que vous collaborez aussi avec l'ADAVEM, je crois.
Oui, alors ça, c'est pour l'accompagnement des personnes victimes de violences.
On les a reçues ici, d'ailleurs.
On travaille avec les forces de l'ordre, bien sûr, avec la gendarmerie, la police. On travaille avec la justice. On a signé un protocole avec les procureurs de la République de Dax et de Mont-de-Marsan. Et ça nous permet, nous, si on a un signalement, de le faire remonter très rapidement à la justice. Ça n'accélère pas forcément le processus, mais ça attire l'attention. Il faut savoir que régulièrement, quand on fait le point avec la gendarmerie, il y a, tous les ans, une 10-12 plaintes pour agression à caractère homophobe ou transphobe. Et on sait que c'est vraiment que le haut de l'iceberg, parce que les gens ne vont pas en général porter plainte.
Et voilà. Oui, c'est ça. Oui.
Donc, et on a eu récemment un événement qui a été beaucoup mis en lumière, c'est-à-dire l'agression qu'il y a eu sur Mont-de-Marsan.
Oui, j'ai vu ça. Ouais.
Et c'est un petit peu ce qui transparaît, mais souvent les violences sont là, existent au sein des familles. Et c'est ce qu'on essaie d'accompagner.
Voilà. Oui. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un développement paradoxal de la société, c'est qu'il y a à la fois une plus grande liberté, connaissance. Effectivement, on en parle, les enfants, les jeunes, etc. Tout le monde en parle. Mais en même temps, de l'autre côté, la manifestation de la haine, etc. Elle est toujours là. Et donc, c'est pas gagné tout ça.
Non, c'est pas gagné. C'est-à-dire qu'il faut combattre sans arrêt. Je pense que elle est plus visible. Mais la plus grande visibilité entraîne effectivement une réaction parfois. Ce qui est surprenant, c'est qu'on est en 2026 et qu'on a encore la question, par exemple, d'un adolescent ou d'une adolescente qui va dire qu'il a une attirance qui n'est pas celle que les parents attendent, elle provoque encore des rejets. C'est compliqué. On peut avoir des couples qui nous interpellent où la réaction des deux parents n'est pas la même. C'est étrange, mais c'est comme ça. On peut avoir des rejets carrément, une incompréhension. D'ailleurs, ça nous amène parfois, en liaison par exemple avec le département, à accompagner des jeunes. Alors, nous, on n'accompagne que des jeunes adultes. Le reste est du domaine de l'ASE. Mais des jeunes adultes qui sont rejetés de leur maison. Des parents qui n'acceptent plus de les recevoir. Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Donc voilà, on essaie de trouver des réponses avec nos moyens qui sont parfois limités, parce que la seule structure qui est en capacité d'accueillir de manière pérenne, c'est le refuge. Mais le refuge, c'est Bordeaux, et ils ont 5-6 chambres pour donc par exemple une personne qui nous avait contacté en août dernier, on a réussi à trouver une solution au refuge en décembre. Donc c'est encore sous-dimensionné par rapport aux situations auxquelles on est confronté.
C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, de la même manière qu'on imagine. On a déjà vu ça dans des films ou des caricatures, des fois des parents qui n'acceptent pas le choix d'études ou de travail que va faire leur enfant. Je ne sais pas où ça en est, parce que quand même maintenant, les trajectoires, elles sont vraiment multiples. Mais il y a encore des parents où c'est très difficile, là, cette pression sociale, c'est bizarre ça.
Oui, pour des tas de raisons, mmh. pour des raisons de projection, mmh. Parce qu'on a imaginé pour ses enfants un projet familial qui n'est pas celui que enfant vous propose. On a aussi des questions sur l'identité de genre, des sujets qui n'étaient pas apparents et qui émergent.
Oui.
Donc, nous, on est là pour aider à poser les mots, à quelque part faire une médiation, essayer de ramener les choses à l'humanité et au respect. Quand on aime ses enfants, ben on les prend comme ils sont.
De toute façon, si on les fait, c'est pour qu'ils aient leur vie, pas ce qu'on veut leur donner, forcément.
Oui, ouais, tout à fait.
Sinon, ce serait un petit peu égoïste. Voilà.
Disons qu'on a tendance à projeter.
Ouais,
moi,
je
suis papa
oui.
et j'avais imaginé que l'avenir de mon fils allait être un avenir comme le mien, quelque part, comme prof ou que sais-je.
Oui.
Et puis finalement, il m'a ouvert un avenir qui est différent, qui est beaucoup plus dans le milieu de la culture. Mm-hmm. Et qui est moins comment dirais-je, calibré.
Oui.
Mais bon, allez, c'est très bien. S'il est heureux là-dedans, c'est parfait.
Ben, bien sûr. Voilà. On va faire une deuxième pause. On va écouter Flash Info Local, un petit peu de musique. Et puis, on va parler un petit peu de ce festival qui est il fait partie de votre démarche, ce
Absolument.
Festival de films et de courts-métrages cette année. Allez, on se retrouve après ça. Et nous voilà de retour avec Beignat, donc de Nos Couleurs, qui en est venu parler de votre association et aussi de ce festival focal.
Alors ce festival, il s'inscrit dans une démarche globale, c'est-à-dire qu'on considère que la culture est un moyen de sensibiliser les personnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé des expositions qu'on met à disposition des médiathèques. Par exemple, on a créé l'exposition « Le cinéma témoin des personnes LGBTQI+ », qui montre l'évolution du cinéma depuis l'origine jusqu'à nos jours, à travers des films. Et puis ça permet en fait, à travers l'outil, le vecteur qui est le cinéma, de parler de discrimination, d'homophobie, de transphobie, etc.
Oui.
La culture, c'est important. Et donc, depuis 5 ans, on organise un festival itinérant. Mmh. Alors, pourquoi itinérant ? Parce que les Landes, c'est très vaste.
Ah ben oui, c'est vrai.
Il n'y a pas de ville dominante réellement. Mmh. Et on s'est dit que dans des villes, rencontrer des publics avec le support d'un film et aussi en travaillant avec des partenaires locaux. C'est-à-dire que, par exemple, ce soir, on va être à Mugron.
Voilà.
On va travailler avec le planning familial sur un film qui s'appelle Skiff et qui est un film qui parle de l'adolescence. Voilà. Et donc, chaque fois, c'est le même principe. On va sur une ville, un village. On passe un accord avec une salle de ciné. Puis maintenant, on commence à avoir un bon réseau de salles de ciné qui travaillent avec nous. Et on prend un sujet. Donc là, ce soir, c'est l'adolescence. Le 9 mai... À Tyros, ce sera les seniors. Et donc, chaque fois, on a un film, un ou deux interlocuteurs locaux, et on anime des débats autour de ça. Voilà.
Alors hier, si je ne m'abuse, c'était ici, c'était
oui,
à Dax.
Oui, c'était à Dax, c'était Julien. C'était un film très vraiment sensible, émouvant, qui parle de l'amour entre deux femmes. Et aussi, c'est une histoire vraie. Qui raconte comment Fleur et Julien se sont rencontrés et ont eu ce projet en 2017 de se marier. Alors, au départ, c'était en Belgique, mais après, de se marier dans tous les pays où le mariage était possible. À l'époque, c'était 22 pays.
Ah, donc, ils ont cumulé des mariages.
Alors, elles ont commencé à cumuler des mariages.
Ouais,
et malheureusement, le destin a frappé. Après le quatrième mariage qui a eu lieu à Paris, on a détecté chez Julien un cancer du cerveau.
Ah, mince.
Et en fait, c'est une histoire à la fois d'amour et de deuil.
Oui.
Et c'était une histoire très émouvante. Et à travers ça, voilà, on a pu parler des droits, parce qu'en 2026, on est à 39 pays,
d'accord,
on peut se marier, et ça permet de mettre aussi l'accent sur la diversité des pays. En Europe, en Amérique, c'est plus facile qu'en Afrique ou en Asie, et leur démarche, qui est une démarche qui a eu lieu, c'est un livre au départ, c'est concrétisé maintenant dans un film, et ça permet de parler des droits, qui sont là, qui sont importants et qu'il faut préserver parce qu'ils peuvent être remis en question.
Oui, oui.
Et puis qu'il faut aussi développer dans d'autres pays. Voilà. Parce qu'il y a plein de films qui parlent de tout ça. Je viens de voir un film récent qui s'appelle, et je conseille vivement d'aller voir, qui s'appelle « À voix basse », qui raconte l'histoire d'une jeune femme lesbienne qui revient en Tunisie. Voilà, c'est très compliqué d'être une personne lesbienne.
Oui.
Voilà. Le cinéma, ça parle de ces situations. Et c'est un bon moyen populaire de parler, d'échanger.
Oui, c'est vrai. Alors moi j'avais discuté souvent avec nos amis là de Tyros, le cinéma grand écran, il y a le cinéma ado, hein, ce sont des ados qui décident et qui votent de quel film va passer dans la prog. Et il y a eu pas mal de films qui parlaient de ces problématiques-là, parce qu'on voyait l'intérêt qu'ils avaient, les jeunes, parce que c'était eux, c'était leur vie, c'était leur questionnement, c'était le moment dans leur vie où ils pouvaient se poser ce genre de questions. Est-ce que je suis ? Qui je suis ?
C'est important. On travaille beaucoup avec les scolaires. Mmh. Par exemple, le 5 mai, on va avoir une projection avec les élèves de seconde du lycée de Tyros, lycée sud des Landes, et on va leur projeter Pride, qui est un film anglais qui date de 2014 et qui raconte l'Angleterre de Thatcher et qui raconte aussi les activistes LGBT qui rejoignent les mineurs en grève. Deux mondes que tout sépare. Et c'est c'est un film qui est vraiment très, très intéressant. Mmh. Et donc, c'est un film qui sera en anglais. Donc, c'est bien aussi pour les profs d'anglais.
Oui, bien sûr.
Et donc, voilà, le cinéma permet d'être un outil de discussion, d'échange. Mmh. Et donc, on encourage vraiment à aller dans les salles de ciné. Il y a plein de films intéressants.
Et oui, bien sûr. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un film marqueur pour la communauté LGBT
Alors, il y en a plein.
Oui, mais le premier qui a ouvert quelque chose, des vannes.
Alors, si on prend la question, par exemple, des personnes homosexuelles hommes, on a des films très qui montrent dans l'histoire du cinéma une évolution. Si on prend les films des années 50-60, la personne gay est considérée comme un prédateur, comme quelqu'un de malsain, comme quelqu'un qui est dangereux.
Oui.
On a le tournant, par exemple, avec les années 70 et avec La Cage aux Folles. On a des personnages qui sont caricaturaux, mais en même temps tellement humains et tellement touchants.
Cette scène de la biscotte, non mais l'air de rien, c'est vrai, on peut prendre ça au premier degré comme du gros vaudeville, mais moi, ça m'est déjà arrivé, je l'ai vu plein de fois, d'être ému en fait.
Oui, voilà. Et alors, ça a été mal perçu par la communauté LGBT à l'époque, parce qu'on trouvait que c'était caricatural, mais en fait, ça a permis de montrer l'humanité des personnes. Et puis après, si on prend d'autres périodes, vous avez eu des films comme Philadelphia dans les années 90 qui ont montré la question, le rapport à l'épidémie, au VIH, etc. On a d'autres films comme Brokeback Mountain qui ont montré aussi une autre situation. Il y a des films qui sont des marqueurs. Je crois que le cinéma accompagne la société, anticipe parfois sur la société. Le cinéma, c'est une industrie, donc ils cherchent aussi à avoir des spectateurs. Et quand ils abordent des thèmes, ils savent que derrière, il y aura des sujets. Mais on a une production cinématographique qui est très riche. Et il faut vraiment aller dans les salles de ciné. Je crois que, bien sûr, il y a les plateformes, bien sûr, il y a tous ces moyens d'accéder. Mais rien n'est aussi passionnant, finalement, que d'être dans une salle, d'avoir ce grand écran et de partager à plusieurs cette émotion ou cette découverte d'une production cinématographique.
Ouais, d'autant plus qu'il existe plein de chouettes cinémas dans les Landes, associatifs ou pas, essais, tout ça. Vraiment, c'est
on a une pépinière vraiment de cinéma.
Plus, souvent.
Non, donc, tout à fait. Voilà. On a une pépinière de cinéma.
Bah oui.
Il faut y aller. Il faut y aller et il faut vraiment parce qu'on a une très grande production cinématographique. On a plein de films. Nous, quand on prépare le festival, on est sur la base de 30-40 films qui nous sont envoyés par les distributeurs. Et qu'on voit souvent en avant-première, ou qui ne sont pas distribués, et qui sont distribués. Par exemple, on a découvert un documentaire qui s'appelle Pédale rurale, qu'on a passé à Dax l'année dernière, pour le mois des fiertés, et qui depuis a été distribué, et qu'on va repasser dans le cadre du festival à Bayonne jeudi, donc demain soir.
D'accord. Et alors, cette année aussi, il y a plein de courts-métrages.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. On était à Vieux Boucau. Et en fait, on s'est dit que c'est très compliqué de créer un prix pour un festival qui est un festival itinérant, puisqu'on ne voit pas les mêmes films, ce n'est pas les mêmes publics.
Voilà.
Donc on s'est dit qu'on allait peut-être tenter quelque chose, et qui a bien fonctionné, qui est un prix autour d'un court-métrage.
Oui.
Donc on est parti de 80 courts-métrages, et on est arrivé à 10 courts-métrages, et qui étaient des courts-métrages différents, qui traitaient de sujets différents, qui avaient des formats différents, qui étaient des documentaires, des films d'animation, etc. Et ça a permis au jury, qui était composé des spectateurs, de voter et de choisir le film. Et là, le film qui a été élu cette année, c'est donc Diego, de Melissa Silveira. Diego, c'est une personne qui est en situation de handicap, qui a joué aussi dans un petit truc en plus, et qui, à la fois, est une situation de handicap et à la fois préfère les garçons, ce que son père ne comprend strictement pas. Et donc, voilà. Et c'est ce film-là qui a reçu le prix qui a été délivré par la mairie de Vieux-Boucau. Et donc, c'est une récompense qui a été donc, attribuée à Melissa Silveira. Et ce court-métrage est vraiment chouette, très, très, très émouvant. Voilà. Et donc, du coup, il y avait des profs du lycée Tyros qui étaient là. Et on s'est dit que peut-être l'année prochaine, on allait faire un prix court-métrage des lycéens. Parce que ça permet aussi, sur des séquences très courtes, de garder l'attention.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est l'un des soucis, de garder l'attention des lycéens. Et donc, peut-être que ce sera un projet pour 2027, pour la 6e édition du festival.
Alors, lycéens, ils ont participé aussi à l'affiche.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 3 ans. Les lycéens de Duruy, avec leur prof d'art plastique, travaillent sur une affiche pour le festival. Donc, ils ont un cahier de charge. Il faut parler du vivre ensemble. Il faut parler de la diversité. Il faut parler du cheminement. Et donc, chaque année, on a à peu près 20 productions. Et sur ces 20 productions, avec le professeur de la plastique, on en sélectionne 5. Et après, c'est le vote du jury qui est en ligne, qui permet de sélectionner l'affiche choisie. Mais c'est un moment aussi comme ça d'éducation, de partage. Voilà.
Après, les jeunes font un truc chouette. Je crois que c'est le collège d'Angresse qui avait fait un film l'an dernier ou il y a 2 ans.
Qui était très chouette sur les différences en général.
Mais qui a vachement tourné sur
les réseaux. Qui a fait un paquet de vues.
C'était chouette. C'est bien parce que comme ça,
c'est bien de travailler avec les lycéens sur ces questions-là et les collégiens.
Bah oui, bien sûr.
Parce que c'est une manière de leur dire, voilà, on est tous différents, mais on a tous de commun d'être des humains, de partager des valeurs. Et c'est un petit peu ce que défend l'association, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, on représente, on travaille par rapport à des personnes d'une communauté, mais c'est une communauté au milieu des autres, avec des citoyens parmi des citoyens. Et c'est ça qu'on essaie de faire passer.
Oui, d'autant plus qu'eux, ils sont à une période de leur vie, en quête, ils passent beaucoup de temps, les adolescents, à se demander qui ils sont et qui ils vont devenir.
C'est normal, on est passé par là aussi.
On est passé par là, voilà, donc c'est normal, voilà. Et puis même, ça peut prendre une vie, cette question.
Parfois, oui. Effectivement.
Parfois. On va faire la dernière pause et on va attaquer la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Et voilà, voilà de retour avec Beignat. Donc, il nous reste encore quelques petites choses à dire. Notamment, on va citer un petit peu les partenaires parce que tout ça, il y a du monde pour que ça puisse fonctionner.
Oui, bien sûr. On est accompagné par des partenaires officiels. Alors, c'est l'État. C'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, qui nous aide à la fois pour le fonctionnement, pour qu'on ait un salarié, pour qu'on puisse intervenir. C'est la région Nouvelle-Aquitaine qui accompagne les associations. C'est le département des Landes qui fait un gros travail sur ces questions-là, sur l'égalité femmes-hommes, mais aussi sur ces questions liées aux minorités. Les agglomérations. Max, par exemple, depuis plusieurs années, nous accompagne. Des collectivités territoriales, des villes. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Vieux-Boucau. Il y a Tyros. Je ne vais pas citer toutes. Dax, pour cette année, par exemple, nous a donné des panneaux d'affichage dans lesquels on a pu présenter le festival. Il y a plein de... C'est important parce que ce que l'on fait, c'est pas quelque chose qui est simplement qui serait une communauté particulière. Ce que l'on fait, c'est permettre à des gens d'être bien ensemble. Et ça, c'est important. Et puis, il y a tous les partenaires associatifs. Donc, je vais les citer pour quelques-uns, puisqu'on travaille avec eux depuis des années. Le Planning Familial, la Ligue des Droits de l'Homme, Team Sama, les Audacieux Audacieuses. Alors, ça, c'est une association qu'on va recevoir à Saint-Vincent-Tyros le 9 mai, parce que c'est une association qui travaille à la création de maisons de la diversité pour permettre à des personnes LGBT, mais pas que, à des femmes, que sais-je, à des gens qui ont envie de vieillir ensemble, de présenter un projet où ils vont se choisir et en même temps... créer une structure qui va être un lieu de vie où chacun aura son appartement, son petit appartement, son studio, mais il y aura des parties communes. Ça existe sur Lyon, Oui. Je l'ai visité, c'est vraiment un projet très chouette.
Oui, oui.
Et il y a un projet qui est en train de se préparer sur la côte basque.
Oui, mais il y en a d'autres dans les Landes, hein, parce que moi j'ai déjà reçu quand j'étais à l'antenne de Souston l'an dernier. Il y a des projets d'habitat participatif, etc. Là, ça se intergénérationnel, etc. Il y a un petit peu de tout. Il y a des gens qui sont un petit peu dans cette dynamique dans les Landes, de créer une manière différente d'habiter ensemble.
Voilà. Et c'est très intéressant parce que c'est une manière de vieillir et de ne pas vieillir simplement en ayant comme perspective l'EHPAD,
qui
va changer de nom, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, qui va s'appeler France Maison France Autonomie.
Ah oui, bon.
Je sais pas quel sera l'apport de cela, de plus. Mais bon, donc voilà, c'est les partenaires. Et puis, il y a aussi tous les relais, comme Souvenir FM, parce que c'est important qu'au niveau des territoires, on parle de ces sujets, on sache qu'il y a des initiatives, qu'il y a des citoyens qui se mobilisent. Voilà, ça, c'est tout un travail d'un ensemble. C'est pas simplement une association. C'est une association qui est accompagnée et qui fait un travail avec l'éducation nationale, avec d'autres structures.
Oui. Alors, en termes de projets, alors, qu'est-ce que vous avez sous le coude, en prévision ?
Alors, les projets, il y en a toujours plein.
Oui.
Il y a un projet qui est en voie d'être bouclé. Il y a une nouvelle expo qu'on va proposer aux médiathèques après le cinéma témoin des personnes LGBTQIA+, qui est disponible, qui est disponible pour les CDI, qui est disponible, il suffit de demander. Ce sont des kakémonos, c'est assez imposant parce qu'en fait, il y a 17, 18 kakémonos. Là, la prochaine expo, qui est vraiment une partie est sortie déjà, c'est la littérature témoin des personnes LGBTQIA+, et où l'on part de l'Antiquité. On parle de Gilgamesh, on parle de Mésopotamie, on parle de la Bible, on parle, voilà. Où l'on, et à travers ça, on vient surtout sur la littérature européenne et plus précisément la littérature en France, au 19e et au 20e siècle. On montre l'évolution, le regard, comment ces sujets-là étaient abordés, comment ils sont abordés de nos jours. Et puis c'est l'idée, c'est quoi derrière ? Comme tout à l'heure, je disais qu'on avait envie que les personnes aillent dans les salles de ciné, on a envie que les personnes lisent.
Bien sûr.
Parce que prendre ce temps de la lecture, c'est essentiel. Et donc on propose plein d'ouvrages classiques, connus, moins connus. Ça va de Flaubert jusqu'à Virginie Despentes, donc ça change.
Oui, oui.
Et donc l'idée, c'est ça, amener les personnes à lire. Parce qu'un citoyen qui lit, c'est un citoyen qui va prendre du recul, qui va réfléchir. Et quelque part, voilà, ce sont des supports qui nous éloignent simplement du smartphone et puis des écrans qui nous transfèrent beaucoup de choses, parfois beaucoup de fake. Et voilà, c'est un petit peu ça qu'on veut développer. Après, les projets, on en a plein, c'est-à-dire continuer à intervenir en milieu scolaire. On va être présent, d'ailleurs, je voulais en profiter aussi, puisqu'on est à Dax. Il y aura bientôt, le 16 mai, la marche des fiertés organisée par Fierté Land à partir de Saint-Paul et Dax. Donc on sera présent, comme chaque année. C'est un moment où de visibilité. Et puis on va encourager aussi les municipalités autour du 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre l'LGBT-phobie, à avoir une action de visibilité, peu importe laquelle, mais qui fasse quelque chose. Voilà, c'est... Puis on sera présent... lors des fêtes de l'été,
bien sûr,
on sera présent pour les fêtes de la Madeleine avec une peña avec le cercle citoyen. On sera présent aux fêtes de Tyros avec une peña avec l'Ande amplifiée. Voilà, donc il y a.
Ah ben, on se verra là.
Et puis on sera présent sur les plages parce qu'on continue l'été, on fait la prévention santé à la sortie des plages, la plage des Casernes notamment. Donc ça n'arrête pas et on invite les personnes qui veulent s'impliquer parce que. Les associations, ce sont des bénévoles. Adhérer, c'est bien. Et on invite les gens à adhérer. Mais on invite aussi les bénévoles qui veulent s'appliquer.
Oui.
On assure des formations pour permettre d'être bénévole, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être bénévole, d'apporter des choses. Donc on invite à rejoindre les jeunes retraités, les très jeunes, les moins jeunes. Voilà, tout le monde est bienvenu dans cette association qui se veut une association ouverte à toutes les personnes qui veulent favoriser la diversité et le vivre ensemble.
Très bien, c'est un beau message. Hein, bon, vivre et laisser vivre. Hein,
c'est tout à fait ça.
Voilà. Ben, merci beaucoup, Méniat.
Merci
pour tout ça, d'avoir présenté cette association et puis ce festival. Et j'espère que voilà, les gens seront nombreux à aller voir ces films et ça les fera réfléchir à eux et aux autres.
Et puis, aller voir les films qui sortent, aller voir lire. Partageons la culture. La culture, elle nous rassemble. Et ça, c'est important.
Très bien.
Merci pour votre accueil.
Merci, au revoir.
Merci.